Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Éclaireurs.
Eh bien bonsoir, c'est les Éclaireurs et c'est l'épisode numéro 23. On est le dimanche 19 octobre. On aurait dû enregistrer à l'heure du goûter, mais en fait on a eu quelques soucis avec nos invités qui ont eu des petits problèmes techniques pour s'installer.
Bah, disons qu'on est plus proche de l'apéro là que du goûter.
Voilà, bon en tout cas le chocolat et le thé sont servis et donc on a ce soir trois invités. Il y a Titours et Musica qui sont déjà venus et puis on a une petite nouvelle, Tamala 75, qui est le chaînon manquant entre chaque podcasteur en fait parce que... Pour la petite histoire, j'avais prévenu un invité de la composition de l'équipe de ce soir, mais Titours et Tamala se sont rencontrés pour la première fois à l'IRL du podcast Plaisir de rougir vendredi soir, sans savoir qu'ils participeraient tous les deux à l'émission d'aujourd'hui. Du coup, ben, ils se sont réunis chez Titours en duplex, façon cognac jet, pour être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Voilà. Donc, ce soir, on va parler avec Musica. Musica, tu vas nous parler de quoi ?
Je vais vous parler d'un livre qui est relativement connu, Cloud Atlas.
Ok. Tamala ?
Je vais parler aussi d'un livre qui est un roman qui s'appelle Le Complexe d'Eden Bellwether.
Voilà, donc ce sera un podcast ce soir sous le signe de la littérature. Et Titours ?
Pour rester dans la littérature, moi je vais parler de la BD La Petite Mort 2 de Davy Morier.
Ok, et puis moi ce sera pas du tout littéraire, je vous ferai un petit topo sur le Festival Lumière qui a lieu à Lyon en ce moment, et puis dans ce cadre-là de La Nuit Alien qui faisait partie du festival, voilà, où j'étais hier soir. Bon, on va lancer le premier sujet avec Musica.
Mm-hmm.
C'est parti. Donc c'est difficile d'illustrer un livre avec un jingle sonore. Donc est-ce que tu sais ce que c'est la musique que j'ai mis sur ce jingle?
J'imagine que c'est de la bande originale du film Cloud
Atlas.
Voilà,
c'est la symphonie, la symphonie de la cartographie des nuages. Voilà.
Ah, voilà.
Donc on t'écoute.
Donc moi je vais pas vous parler du film Cloud Atlas que je n'ai pas vu. C'est étonnant.
C'est très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé.
Moi j'ai vu des avis assez mitigés là-dessus.
Ouais, les avis sont mitigés, mais moi je l'ai trouvé très bien.
Moi je vais par contre vous parler du livre Cloud Atlas qui retitra en français Cloud Atlas, cartographie des nuages, que je trouve beaucoup plus joli pour moi. Je
trouve aussi beaucoup plus joli en français.
Oui, pourtant je défends toujours la VO, mais là le titre est tellement plus poétique à mon sens en français. Enfin bref, et donc c'est un livre qui a été écrit en 2004, enfin qui est sorti en 2004, en tout cas en Angleterre, et a été écrit par David Mitchell, qui est donc un écrivain anglais. Et non, j'ai pas fait exprès.
Comme par hasard.
Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Donc en France, il est édité aux éditions Point. Alors, juste un petit truc rapide juste sur l'auteur pour savoir un peu, mais qui est ce gars-là? Donc, c'est un auteur anglais qui est né à la fin des années 60, qui a été professeur d'anglais à l'étranger, enfin au Japon, à Hiroshima.
D'accord.
Et qui est de ce fait marié à une japonaise. Et on ne croirait pas, mais en fait, le fait qu'il soit... En fait, c'est qu'il va... Il se documente pas mal donc sur le Japon. Bon, de toute façon, il y a vécu, il parle japonais, voilà. Et il se documente pas mal. Il a d'ailleurs sorti un bouquin qui se passe au Japon, voilà. Donc, j'en parlerai plus tard, en parlant plus en détail de Cloud Atlas. Cloud Atlas, c'est son deuxième roman. Oui, c'est ça, c'est son deuxième roman. Il avait écrit Fantôme en 99, Le Fond des Forêts en 2006, et le dernier qui est Les Mille Automnes de Jacob de Zoët, alors je ne sais pas comment ça se dit, Zoé, Zoette.
Oh.
Alors, qui est sorti en 2013 en France. Et donc voilà. Alors, de quoi parle Cloud Atlas ? C'est super compliqué à expliquer. C'est très 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 compliqué. Alors, je vais plutôt lire le résumé parce que j'ai le livre entre mes mains.
D'accord. Il y en a qui font leur chronique avec Wikipédia et d'autres qui font avec la quatrième de couve.
Non, mais je l'ai lu aussi. Non, mais c'est
oui,
surtout.
Non, mais c'est bien.
Ouais.
Ah merde,
non.
Je voulais le faire aussi.
De quoi ?
La quatrième de couve.
Ah bah voilà.
Ça t'empêchera pas, tu pourras
fait,
le faire
généralement.
Aussi.
Mais ça résume tellement bien aussi.
Enfin, ça dépend. Il y a des résumés, franchement, ça spoil tout. Mais c'est celui-là, en fait, il est tellement compliqué à résumer. C'est, je me dis, au lieu de passer des plombes à essayer d'expliquer un truc que je vais perdre tout le monde, le mieux c'est que je lise la quatrième. Donc ça commence comme ça. 1850, Adam Ewing, notaire aventurier, découvre les aborigènes. 1931, Robert Frobisher, jeune musicien, se met au service d'un compositeur de génie. 1975, Louisa Ray, journaliste risque tout, déjoue un complot nucléaire. Plus tard, la clone lettrée Sonmi 451 est condamnée à mort pour rébellion. Leur point commun, une étrange tache de naissance. Les couloirs de l'histoire seraient-ils impénétrables ? Oui, alors. Oh. Alors, ça veut. Bizarrement, ça peut vouloir un peu rien dire quand on lit ça, mais c'est. Donc, en fait, ça va être une histoire de plusieurs destins qui vont se croiser, tout ça, mais c'est. Enfin, voilà, c'est tellement à part. Donc, moi, je l'ai lu cette année, c'est ça, fin 2013, début 2014, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Et
je crois que c'est un gros pavé en plus.
Ah, il fait 714 pages. C'est 714. Non, 714,
ah, oui, 714
pardon, je me suis trompée.
Oui.
714, donc voilà. Donc tu prends.
C'est dense.
C'est ça, ouais. c'est dense. Mais j'ai adoré. Franchement, j'ai pris un pied. Pas possible. Il y a des passages qui sont vraiment très drôles. C'est très original dans la structure parce qu'en fait, c'est pas un récit linéaire. C'est en fait plusieurs récits insérés dans un seul. Par exemple, je vais vous expliquer le récit qui est sur Adam Ewing, ça va être donc il s'appelle Journal de la traversée du Pacifique d'Adam Ewing. C'est un journal de voyage, enfin c'est un carnet de voyage si on veut. Après, donc si je retrouve la table des matières, après il y a Lettre de Zedelgheim, donc ça c'est plutôt ça c'est épistolaire. Il y a du vrai, il y a du roman à la troisième personne, enfin du récit à la troisième personne, à la première personne. Il y a de l'historique, il y a du truc de voyage, il y a donc du roman épistolaire aussi. Il y a de la science-fiction, il y a du contemporain. Il y a énormément de choses.
Donc ils mélangent les genres et les styles littéraires qui sont imbriqués ensemble.
Complètement. Même les styles de langage ne sont pas les mêmes. Ouais. Il y a des ambiances différentes, etc. C'est très très bien fait, c'est très surprenant, j'ai pris un peu comme une claque en disant ça. C'est assez unique, inclassable, et puis c'est très bien écrit. Il y a des passages que j'ai... Il y a des citations que je me suis notées, parce que certaines étaient vraiment drôles, il y en a que j'ai trouvé drôles, ou alors c'est parce que c'était bien écrit. Par exemple, il y en avait un, je ne sais plus dans quelle partie c'est, parce que j'ai noté il y a longtemps. Alors... Une tragédie pour ceux qui l'aimaient, un événement sans importance pour les autres et un problème de moins pour mes clients, ou des trucs comme ça. Je sais pas, il y en a plein de choses, par exemple, une tempête de. Alors, la vie, c'est une tempête de mer de force 10, ou des trucs comme ça. Des phrases, ça m'a fait rire, moi. Et non, c'est très très bien écrit. Et aussi, c'est super bien documenté, parce que par exemple, dans le carnet de voyage, c'est donc. Je spoil pas, de toute façon, je peux pas spoiler ce livre tellement c'est compliqué. En fait, c'est Adam Ewing donc qui va rencontrer les aborigènes, donc il va être vers la Nouvelle-Zélande plutôt qu'en Australie, et il va s'intéresser à une population, une certaine partie d'un, enfin comment dire, un certain type d'indigène, j'aime pas dire race, mais j'ai pas d'autres mots.
Une ethnie.
Ethnie, voilà, merci. Une certaine ethnie. Et quand tu lis le bouquin, c'est super documenté. En fait, il dit à la fin qu'en fait, il s'est vraiment documenté. Il a pas inventé. C'est vraiment quelque chose qui a existé. Et moi, je fais des études d'anglais, donc j'ai fait un peu l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et il y a des dates. Je me suis totalement reconnue dans les dates. C'était cohérent. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup d'efforts qui ont été faits. Après, toutes les histoires sont pas forcément... Enfin, moi, dans l'ensemble, je les ai aimées, mais après, il y en a qui vont me plaire plus que d'autres. Ouais. La première, j'ai beaucoup aimé, c'est même l'oraison de Sonny 451 était absolument géniale.
Oui, ça, trouve. C'est la partie assez SF.
Voilà, plutôt SF, mais SF, vraiment SF futuriste, parce qu'après, il y a une autre partie SF qui est un peu différente. Je sais pas si elle y est, si dans le film.
Elles y sont toutes dans le film,
Voilà. Et il y a aussi quelque chose, genre une enquête policière qui est très très bien faite aussi. C'est voilà, donc c'est vraiment excellent. Il paraît que par rapport au film, il y a des trucs qui diffèrent. Et,
d'accord.
Notamment par exemple dans le film. Dans le film, oui, c'est ça. Dans le film, c'est. Des fois, je crois que c'est le même acteur qui joue en fait la même personne dans l'autre histoire.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est un principe de destin qui s'entremêle. C'est pas des réincarnations, mais presque. Enfin, si, il y a un peu de ça. Enfin, c'est compliqué. Et par exemple, il y a Tom Hanks dans le film. Apparemment, il va jouer son histoire principale. Et puis après, dans l'histoire suivante, il va être notre perso, etc. Et, ce qui n'est pas tout à fait le cas.
Mais il est exceptionnel, Tom Hanks, dans ce film.
Oui, moi,
j'ai été assez marquée. Il dure presque 3 heures.
Putain.
Le film. Mm. Donc je pense qu'on retrouve la même chose que dans le roman que j'ai pas lu. Hein. Mm. Mais le fait qu'il joue plusieurs rôles, même à la fin, en regardant le générique de fin, on réalise que c'est tel ou tel acteur qui faisait tel rôle et par moment on ne le sait pas.
Oui, ils arrivent à ne pas se ressembler en fait.
Mm. Ouais, mais après c'est. J'avais vu il y a longtemps sur la fiche Wikipédia, en cherchant par hasard, que. En fait, il y a pas mal de différences par rapport au livre. Bon, ça ne me gêne pas, mais qu'il y ait des différences qui, moi, m'avaient semblé pas connes, mais assez un peu...
Étonnantes,
disons ça. Voilà, et que je n'aurais pas fait. Mais après, mais déjà, vouloir adapter ce livre, c'est voilà, faut faire. C'est soit tu te casses la gueule, soit tu fais quelque chose de vraiment exceptionnel. Voilà, mais non, mais vraiment, ce livre il fait 714 pages. On peut presque lire un peu comme on veut, mais je conseille de lire vraiment partie par partie. Si vous si vous achetez le livre et que vous avez fini la première histoire, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Mais c'est
d'accord.
Mais je conseille vraiment de faire dans le découpage qui est donné. Mais après, quand on le relit, on peut le relire n'importe comment. Il n'y a pas de souci. Et donc vraiment, je recommande ce livre parce qu'il est vraiment très très bon. Et il coûte 8,90€ pour 714 pages. Ça va. Bon, j'ai eu un peu de mon cher. Mais franchement, c'est très très bon.
Moi, j'ai la version Kindle là en stock. Je pense que ce sera un des prochains livres que je vais lire.
Ah, mais tu vas aimer, hein. Tu vas adorer.
Je pense parce que du coup, j'aime beaucoup l'idée. Parce que c'est quelque chose que j'avais apprécié dans le film, justement le mélange des genres cinématographiques, de retrouver à la fois du film historique et du film de science-fiction, du policier, tous ces genres-là qui étaient mélangés avec en plus plein de références au cinéma régulièrement, à des films classiques comme Soleil Vert... Moi, le voyage...
It's people.
Voilà.
Pardon, excusez-moi.
Par exemple, moi, l'histoire... Comment il s'appelle, là, le héros qui tient son journal de bord sur le bateau, là?
Adam Ewing.
C'est fin du 19e siècle, hein, c'est ça?
C'est ça, oui, fin du 19e.
Moi, ça me fait énormément penser aussi au voyage de Darwin. Mm. En fait, Darwin qui a fait un très long voyage comme ça, un peu à travers le monde et qui est allé à la rencontre de tribus indigènes et qu'on a parlé, quoi. J'ai pensé à plein de choses comme ça, c'est très, très référencé. Et donc, j'imagine que ça doit se sentir dans le livre, tout ce travail de documentation qu'il a fait.
Ah oui, mais complètement. J'ai vraiment apprécié le fait que ce soit des trucs, c'était creusé, ça a été vérifié, ça j'ai vraiment apprécié. Après, bon, je peux pas non plus, j'ai pas tout vérifié non plus, mais de ce que je savais, il y avait une bonne partie que je trouvais, enfin qui était vraie, qui était cohérente, et ça c'est franchement très appréciable.
Eh ben merci. Écoute, moi en tout cas, je l'ai, ça me donne encore plus envie de le lire.
Tant mieux.
Je vais m'y mettre et nous en reparlerons.
Très bien, très bien.
Montamala, t'es prête ?
Oui.
Je vais te laisser nous expliquer.
Oui, alors vous venez d'entendre les chœurs du King's College en direct de Cambridge, chantant des chants liturgiques qu'on appelle communément en Angleterre Evensong, à savoir les prières du soir, donc ce qui correspond en France aux vêpres. Voilà. Bienvenue, bienvenue dans cette émission œcuménique.
Amen.
Alors, le Seigneur est avec nous, il vous écoute.
Amen.
Parle, mon enfant.
Alors, dans le respect de toutes les croyances, alors, bon, moi, je ne suis pas vraiment religieuse ou croyante. Je crois en une certaine spiritualité. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans les détails.
Non, non, non.
Voilà.
Pas de religion, pas de politique.
Exactement. Il se trouve que je lis sur Kindle et que c'est bien pratique pour faire des découvertes en regardant un petit peu les suggestions une fois qu'on a fini un roman, de voir sur quoi on va enchaîner derrière. Et j'ai pris la petite habitude comme ça que dès qu'un roman est fini, hop, tout de suite, j'essaye d'en mettre un autre dans la liste pour avoir toujours quelque chose de nouveau dans le Kindle. Et donc, mon petit Kindle me suggérait un roman dont je n'avais pas du tout entendu parler, qui s'appelle Le complexe d'Eden Bellwether, en anglais The Bellwether Revival, voilà, d'un auteur qui s'appelle Benjamin Wood. Et quand on dit le petit résumé, ben ça vous parle donc de Cambridge, de musique baroque, des chœurs du King's College, d'étudiants qui se rencontrent et qui sympathisent avec un jeune sur le campus. Voilà, ça commence un petit peu comme une sorte de teen movie des années 80-90, là, à Cambridge. Et puis, en fait, ça va vite évoluer vers du mysticisme, du surnaturel, du thriller. Parce qu'en fait, un des jeunes étudiants, qui est une sorte de petit génie, un petit peu trop sûr de lui, pense qu'il a un mystérieux pouvoir de guérison par la musique, en fait. Donc voilà, il est organiste, donc il joue de l'orgue au King's College. Donc il y a toutes ces ambiances comme ça de milieu étudiant anglais, très huppé, très hush-hush, avec ses codes. Et donc le jeune qui rentre dans ce groupe d'amis, lui, c'est plutôt quelqu'un de normal, entre guillemets. Donc on s'identifie plutôt à ce jeune qui rentre dans cette bande et qui découvre ces personnages un petit peu étranges, qui jouent tous de la musique classique. Donc certains jouent du violoncelle, d'autres du piano. Et le fameux Eden Bellwether qui donne son nom au roman, donc lui joue de l'orgue et bon, on se demande si est-ce que c'est lui qui va vraiment mener la danse ou est-ce qu'il y a un autre mystère qu'on nous cache, on ne sait pas trop. Toujours est-il que le roman commence par la dernière scène. Donc ça, c'est assez original.
Ok, oui, effectivement.
Et voilà. Et la dernière scène, en fait, c'est la police qui arrive sur le campus parce qu'un drame vient d'arriver. Donc on ne sait pas trop, mais il y a la police, il y a les pompiers, il y a tout le monde. Donc visiblement, quelque chose d'horrible est arrivé. On ne sait pas trop, mais on va ensuite détricoter toute l'histoire, tous les chapitres de l'histoire, et essayer de comprendre où ça a pu déraper. Et c'est vraiment, vraiment captivant. Avec cette ambiance musicale là qui est complètement étonnante. Voilà, il y a pas mal de références à des vrais auteurs, enfin des vrais compositeurs. Et puis si on s'amuse après à chercher sur YouTube le King's College et les noms des différents compositeurs qui sont évoqués, on peut se faire la bande son du roman. Donc c'est assez rigolo comme ça d'avoir une expérience.
Ah, c'est une bonne idée ça, oui.
Voilà, on se fait l'expérience plurimédia tout seul dans sa maison.
D'accord. Donc, tu disais que ça se passe dans les années 80-90, c'est ça ?
Alors ça se passe dans les années 2000. Mais en fait, moi, ça m'a pas mal rappelé des films genre L'expérience interdite. Je sais pas si ça vous dit quelque
D'accord.
chose.
D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait.
On voit des bandes d'étudiants comme ça qui ont l'air bien sous tout rapport. Et puis, en fait, ils vont trop loin. Ils tentent des expériences. Voilà. Moi, ça m'a fait penser à ça. Et il y a un côté aussi un peu fantastique, un peu Stephen King, hein, presque. Hein. Ouais. Dans le côté, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller trop loin. On se méfie de tous les personnages. On nous dit qu'Eden Bellwether serait une sorte de pervers narcissique, mais est-ce qu'on doit se méfier de tout le monde ? Enfin, c'est assez bien fait. Et ouais, on apprend plein de choses sur la musique. Alors, ça va très très loin, hein, parce qu'en fait, l'auteur, qui est assez jeune, en fait, Benjamin Wood, il n'a que 33 ans.
D'accord.
Donc ça, c'est déjà rien
Quel
que ça,
âge.
C'est...
Ouais, quel bel âge, n'est-ce pas ?
Et il nous parle d'un petit génie, donc le fameux Eden Bellwether, qui... Enfin, voilà, on peut faire un petit parallèle aussi, genre Benjamin Wood, c'est aussi un petit génie, un petit malin. Là, on voit des photos de lui sur Internet, il est plutôt beau gosse, en plus. Voilà.
Ce qui ne gâche rien.
Ce qui ne gâche rien, voilà. Et puis, le roman, il a séduit pas mal de monde, parce que moi, je suis tombée dessus par hasard. Mais en fait, je pense que le moteur de recommandation du Kindle avait été un petit peu influencé par le fait qu'à la rentrée, là, il a eu le prix du roman FNAC, prix du public.
D'accord.
Donc, ceci pouvant expliquer cela, voilà. Mais c'est toujours sympa de découvrir des romans aussi sans savoir quoi que ce soit. À la limite, moi, j'ai préféré ne pas savoir que Benjamin Wood avait 33 ans. On découvre en regardant un peu sa bio qu'il est passionné de musique lui aussi, qu'il a vécu à Cambridge, donc il connaît bien Cambridge, mais qu'il ne vient pas de Cambridge. Donc il a gardé ce regard extérieur et il nous permet de rentrer, nous aussi, comme quelqu'un qui arriverait, qui découvrirait les codes. Ouais, mais à la limite, ne rien savoir du roman, je trouve que c'est encore mieux. Donc, à la limite, j'aurais jamais dû parler de ce roman.
Pour nous, c'est trop tard. Maintenant, on en sait trop. Non, mais c'est tentant, surtout si on aime le genre un peu fantastique.
Ouais, ça donne envie.
À la fois thriller et fantastique. Bah, Musica, toi, ça doit bien te tenter. Ça se passe à Cambridge. C'est anglais.
Ouais, ouais. Non.
Parce que pour Tamala, Musica est étiquetée spécialiste en séries, films, culture anglaise en général.
Oui. Et voilà. La famille royale, tu t'y connais aussi ou pas ?
Non, pas tant.
Devrais. Tu devrais. Kate, elle attend des jumeaux. Elle a été malade pendant 4 mois.
C'est vrai ?
Elle attend des jumelles, des filles.
Oh mon Dieu, je vais devoir racheter tous les magazines et toutes les médailles commémoratives.
Mais oui.
Et les mugs aussi.
Oui, les mugs, oui, tout à fait. Non, non. Non, mais j'avais acheté la pièce commémorative de la monnaie du Canada avec Prince George. Quand même.
Oh, le petit prince George, c'est trop mignon.
Ils avaient fait des pièces trop mimi avec un petit couffin là, gravé dans la pièce et tout, c'était super beau.
Tu l'as acheté dans l'eau pour que ça porte bonheur ?
Non, tu fais pas ça avec la monnaie royale du Canada.
Non, tu fais pas le petit Grégory, s'il te plaît.
On en parlera tout à l'heure, s'il te plaît, ne spoil pas.
Voilà. En tout cas, moi, je trouve ce livre très tentant.
Ah. Moi aussi.
Bah, écoute, je te l'aurais bien prêté, mais comme c'est sur Kindle... Ça,
non, mais c'est pas grave, j'ai un Kindle aussi, je me le trouverai.
Ah, bah alors, par contre, entre Kindleiens, on peut s'offrir des bouquins, je crois.
Ah, c'est bon à savoir,
je vais regarder ça.
D'accord.
Et sinon, pour tes auditeurs, je peux préciser qu'en français, il est donc édité, puisqu'il a eu le prix FNAC, il est édité aux éditions Zulma. Je connaissais
pas. Oh, c'est une très belle édition,
eh ben,
ça.
Je ne connaissais pas cette maison d'édition.
C'est une très, très jolie édition. Ouais. Ils font des très beaux livres. Ben, ils éditent des choses qui sont assez rares. Ils donnent leur chance à pas mal de nouveaux auteurs. Et puis, en tant qu'objet, les livres sont toujours très beaux. Et très belle couverture, très beau papier.
C'est beau. Ils ont fait des espèces de formes géométriques, triangulaires, plein de couleurs. C'est très, très beau, effectivement.
Ouais.
Et donc, bon, ça coûte la modique somme de 23 euros, hein, tout de même. La version Kindle en français est actuellement à 12,99 €. Et si vous avez le courage, je vous y incite à lire en anglais. La version anglaise, comme il est sorti il y a bientôt 2-3 ans, n'est plus qu'à 4,99 €.
Et toi, tu l'as lu en anglais
But of course. Oui.
Ah, oh, but of course.
Ah, c'est un vrai plaisir. Avec le Kindle, c'est un vrai plaisir. Dès qu'il y a un mot un peu étrange. Hop, on appuie, on a le dictionnaire. Enfin, c'est formidable. Ouais,
ouais, ouais. Ok. Que, et tu as dit qui était
Vas-y. Musique, à ton prix.
Oui, donc c'est que j'ai plus eu de son. Donc tu disais qu'en anglais on pouvait c'était quoi déjà en anglais?
Le tarif entendu, là,
le... Non, le titre. Ah,
le titre et,
alors le,
voilà.
Le prix non, c'est... de cet ouvrage.
Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Je vous mets une demi-livre de
Ouais, mais en fait le titre anglais, je le trouve plus comment dire plus fidèle à l'esprit du bouquin parce que ça reste mystérieux, c'est The Bellwether Revival. Donc, quand on voit le titre, on ne sait pas forcément que Bellwether, c'est le nom d'un des personnages. Et on nous parle de revival, donc ça peut évoquer effectivement la résurrection, on ne sait pas trop ce que c'est. Je trouve que ça évoque le mystère. Alors qu'en français, c'est le complexe d'Eden Bellwether. Et, ouais, et déjà, ça nous révèle, parce qu'il y a plusieurs personnages qui s'appellent Bellwether dans le roman. Donc, ça nous révèle qu'on va nous parler d'Eden Bellwether et qu'il a un problème. Je trouve que c'est un peu trop explicite.
D'accord, ouais.
Un petit peu trop.
Effectivement.
Ok. Bon,
toutes les traductions en françaises ne peuvent pas être aussi jolies que cartographie des nuages.
Voilà.
Exactement. Voilà. Je trouve même que c'est une exception.
C'est une exception, tout à fait. Tout à fait. On va pas commencer à parler des titres de films québécois.
Oui. 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 Là, il y aurait de quoi faire.
Ah, non, on a...
non, on n'a pas fini.
Mon préféré étant quand même le titre de Speed, le film avec Keanu Reeves. Formidable, le titre québécois.
C'est comment?
C'est La Clanche.
La clanche,
qui,
oh,
qui
c'est
veut
beau.
Dire l'accélérateur, donc voilà. Bah,
d'accord.
Clanche, c'est accélère. Donc,
ou voilà. Poignée de porte en belge.
Ah, en clancher, d'accord.
C'est... Moi, c'est plutôt Fast and Furious qui devient rapide et dangereux.
Oh, ça encore, ça peut faire.
Non, j'aime bien. Rapide et dangereux, c'est. Voilà. Bon,
rapide et dangereux.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Tamala. Maintenant, nous allons passer à Titours.
Vous êtes au courant, je suis l'auteur de la bande dessinée La Petite Mort. Vous êtes pas au courant? Ok, je suis l'auteur de la bande dessinée La Petite Mort, c'est la même chose en fait. Donc, j'ai une BD qui est sortie qui s'appelle La Petite Mort, tome 1. Ah, ça tombe bien, c'est le tome 1. Là, sort en octobre, La Petite Mort, tome 2.
Donc voilà, David Mourier a tout dit, c'est bon, tu peux partir, Titours, voilà. Passe une bonne soirée.
Non, j'en dirai un petit peu plus quand même.
Mais oui, quand même.
Donc, alors, bon, je vais faire un petit déjà. Qui est Davy Mourier? J'imagine que vous le connaissez déjà. Il y en a qui l'ont vu. Donc, c'est Régis Robert dans Nerds. Il était dans J'irai voler sur vos tombes et dans le Golden Show avec Monsieur Poulpe. C'est lui aussi qui joue le professeur Xavier dans la vidéo sur Icat, The Super Heroes Hangover.
Oui,
ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Elle est fabuleuse.
Le pouvoir implique de niquer sa race.
Ah oui, putain,
je comprends ça. With powers comes a lot of bitches. C'est pas très
magnifique.
Bien. Et on le verra aussi très bientôt dans la saison 4 de HeroCorp, où, comme il dit lui-même, il a encore un rôle de beau gosse.
Mais il est aussi dans les opérateurs, tiens, aussi, je pense.
Enfin, il est encore dans d'autres trucs, mais j'en parlerai un petit peu après.
C'était le barman, non, dans HeroCorp.
Non, il y est pas encore.
Ah, je comprends.
Et ce sera saison 4.
Qui sera bientôt diffusé en avant-première au Grand Rex.
Pardon, je disparais.
S'il te plaît. Donc, alors, La Petite Mort 2, c'est donc la suite directe de La Petite Mort 1. Donc, il est fortement conseillé de lire La Petite Mort 1 avant. Pour résumer...
Et là, je vous renvoie aux éclaireurs...
Les éclairages épisode 11.
Épisode 11,
j'ai évité
où
de
tu nous parlais.
Exactement la même intro.
Voilà.
Je vais en parler. Je vais quand même réexpliquer un petit peu ce que c'est que La Petite Mort. Donc c'est, enfin, la BD, ça raconte donc la vie de La Petite Mort. C'est un enfant, presque comme les autres, qui va à l'école, il est amoureux d'une camarade de classe, il essaye d'avoir des amis, et en fait, à terme, il doit reprendre le métier de son papa, donc qui est la faucheuse. Le problème, c'est que La Petite Mort veut être fleuriste. Donc c'est un concept...
C'est un beau métier aussi.
Donc c'est un concept complètement taré. Donc ça, c'est vraiment l'univers de Davy Mourier qui ressort vraiment dans cette BD. C'est un gars qui est complètement barré, qui est adorable. Et en fait, il a mis un peu de lui dans cette BD. Et j'ai trouvé qu'il en avait mis beaucoup plus dans le tome 2. Parce que le tome 2, ça, donc La Petite Mort n'est plus à l'école primaire, donc là il est passé au collège. Il y a de nouvelles aventures, donc il y a les problèmes d'amour, des désillusions. Bon, il y a toujours des trucs chelous, genre des correspondants égyptiens. Et il y a aussi une licorne sirène qui se retrouve sur la couverture.
La licorne sirène.
Oui, ça c'est classique, somme toute.
C'est classique. En fait, je crois que pour la sortie, peut-être que tu allais en parler, mais il a fait un concours hein, de cosplay licorne sirène pour la sortie du tome 2, il me semble.
De dessin, moyen. Ouais, c'est ça, quelque chose aussi. Comme ça.
C'était de dessin ou de cosplay, je sais plus.
Enfin, et il a même fait en gâteau. Je crois qu'il était sur une boîte qui s'appelle le Pancake. Il a été dans les dans leur laboratoire et il a fait un gâteau, La Petite Mort, qui est super classe. Qui reprend exactement la même couverture.
Il a très bon goût d'apiculier, ça on ne le dit pas assez en fait.
Pourquoi ?
Non, mais je trouve, c'est quelqu'un de subtil. Sous une couche de gaudriole, c'est quelqu'un d'extrêmement subtil.
Il y a une bonne couche de gaudriole quand même, il va loin, je trouve, parfois.
En fait, il y a de tout justement, mais c'est ça me déplaît ce que pas, je disais quand la petite Morin, j'expliquais que c'est du Davy Maurier, c'est son style à lui, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver ailleurs. En fait, c'est soit complètement taré parce qu'il y a des interludes au milieu où il y a des fausses pubs avec Hello Kitty. Il y a une dans la tome 2, il y a une petite BD qui s'appelle Docteur Miaou, qui reprend Docteur Who. Donc il y a pas mal de trucs du genre complètement taré, mais il y a toujours un peu de lui. Il avait été aussi invité dans un épisode de L'Apéro du Capitaine, où raconter un peu toute sa vie.
Tout à fait.
Et ça se voit qu'il est totalement sincère et ça se retrouve énormément dans ses BD.
Il est sincère, et puis justement, sous sa couche de gaudriole, il y a quelqu'un que j'ai trouvé de très sensible.
Ah ben, totalement, parce que pour ceux qui n'ont pas lu La Petite Mort 1, enfin ceux qui l'ont lu, s'ils ont lu la fin, ils comprennent qu'effectivement, il y a quelque chose de vraiment, auquel on ne s'attend pas.
Donc, probablement c'est vraiment un traumatisme d'enfance.
D'accord.
Ou s'il n'y en avait qu'un seul. Il y en a beaucoup.
Ouais, je crois.
Donc La Petite Mort 2, ouais, donc c'est... C'est vraiment la digne suite du premier, c'est La Petite Mort continue à grandir et tout, donc vu qu'il est adolescent, donc il y a plus ou moins la révolte avec les parents, il y a les amours, il y a les parents, enfin c'est vraiment très sympa à lire. Si vous aimez le 1, vous aimerez le 2, si vous ne connaissez pas encore, je vous le conseille vivement. Si vous connaissez un petit peu ce qu'a déjà fait Davy Maurier, si vous avez lu ses autres BD, donc... 41 € pour une poignée psychotrope, il avait fait 50 francs pour tout, Karate Boy, il avait fait Journal intime d'un geek dépressif, enfin il en a fait pas mal.
Ouais.
Je crois que c'est sa 7e BD.
Il parle beaucoup de la dépression, hein. Enfin, il se cache pas du fait qu'il a eu...
lui-même des épisodes de dépression.
Mais d'ailleurs...
Et je me rappelle de quelque chose qu'il avait dit à l'apéro du Capitaine, c'est peut-être ça dont tu voulais parler. Il disait que quand on a beaucoup d'humour, qu'en tout cas on veut un peu mettre en avant cette face de soi-même qui est la personne drôle, c'est qu'il y a derrière quelque chose de très dépressif.
Et là, si...
Souvent les gens les plus drôles sont les plus sensibles et les plus dépressifs.
Et là, c'est une magnifique transition parce que son spectacle, qui fait aussi, qui s'appelle Petite Dépression entre amis, donc c'est exactement ça, donc il raconte vraiment sa vie. Le truc, c'est que c'est pas du stand-up, c'est pas forcément un spectacle comique. Dès le début, ce qui est bizarre parce qu'on s'attend à ce qu'il raconte sa vie. Bonjour, je m'appelle Divi, blablabla, qui balance des vannes et tout, mais pas du tout. Il raconte vraiment sa vie. Il raconte vraiment des détails très intimes de sa vie. Et en gros, il parle de toutes ses années chez le psy. Il joue son rôle chez le psy, il interprète lui chez le psy en train de raconter ce qui se passe. Et après, il interagit aussi avec le public en racontant certaines choses. Donc c'est vraiment un spectacle très intime, c'est assez particulier. On se dit, ah oui, il balance vraiment tout, quoi, quasiment, donc c'est assez surprenant. Mais enfin, il y a quand même où on se marre pas mal aussi. Il y a surtout une question fatidique qu'il pose au public, enfin surtout aux garçons, ou à des demoiselles qui pourront comprendre aussi, mais bon. Je vais éviter de vous spoiler le truc, mais vous verrez, c'est assez folklorique à vivre en live. Donc c'est vraiment très sympa, c'est une petite salle, c'est à la Nouvelle Scène. Donc c'est sur une péniche à Paris. C'est une petite salle, c'est très convivial, c'est super sympa.
Et il joue encore
Oui, il continue encore. Bah, il devait arrêter fin de l'année dernière.
D'accord.
Mais ça marche tellement bien et tout qu'il continue. D'ailleurs, la première Petite Mort a été vendue à pas mal d'exemplaires, si je me souviens bien, parce que ça a été réédité 3-4 fois au moins. Donc c'est dire que ça va marcher super bien. Je me rappelle quand je l'avais vu au Festival Delcourt pour une dédicace. Et les rayons étaient remplis assez régulièrement. Donc ça marchait vraiment très bien.
D'accord. Ouais,
et donc depuis, il a aussi sorti un petit livre qui s'appelle Minitel et Fulgur au point. C'était le monde avant Internet.
Je vois la couverture, c'est de toute beauté.
Voilà. Donc c'est un Minitel avec des cornes de Fulgur. Et en fait, ça raconte les années 80-90. Alors, c'est plein de petites anecdotes donc, ou de phrases qui se disaient à l'époque, genre « Tu as vu mon Walkman, il fait auto-reverse
?» Oui, ça nous
parle. « Tu n'as pas reçu mon message sur ton tam-tam ?» Il y a « Tu as fait des photos ?»
Je t'en fous, jeune, là.
Oh là là, la phrase qu'on n'a pas dit depuis 20 ans. Quoi.
Et il y a énormément de trucs sur un peu tout, sur des dessins animés et tout. Alors, il y en a un truc que j'adore, c'est sur les Chevaliers du Zodiaque. Donc, c'est un petit camembert. Ouais. Alors, les Chevaliers du Zodiaque, le scénario, c'est 21% de mythologie, 15% zodiaque, 15% de sacrifice, 21% de marche d'escalier à monter.
Ah oui, les escaliers.
Il y a 20% de la propension de la princesse Athéna à se faire enlever ou à mourir. Il y a 5% de l'homosexualité des personnages et il y a 3% de gay passif.
Et clairement, oui.
Allez, donc à finir aussi, donc les phrases récurrentes des personnages, donc Pégase, c'est Saori. Andromède, c'est
Saori.
Andromède, oh mon frère. Le signe, c'est oh maman, c'est mort. Phoenix, eh non, tu n'es pas mort. Et le dragon, puisque c'est ça, je me crève les yeux.
Ah oui, c'est vrai. Oui, toujours. Ouais.
Okay.
Donc, il parle de Saturday Night Fever, les crados, le macomoulage,
oh, les crados,
les smileys, les façons de se déguiser, les pauvres rangers. Enfin, il y a un peu de tout. Donc, c'est, si vous êtes un peu nostalgique, vous retrouverez énormément de choses. Il y a les joyeux anniversaires avec la carte Ulysse 31. D'ailleurs, il y a sa carte de membre du club Ulysse 31 avec sa photo de l'époque. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est un petit bouquin, ça coûte 6 euros. C'est quoi, une petite centaine de pages.
Ouais, c'est un petit livre
de poche que j'ai lu et c'est, non, c'est vraiment super sympa.
Ah, bah tiens, j'ai bien envie là, de.
Oui,
de
moi ça me tente bien celui-là.
Voilà, ouais, donc vous pouvez prendre la petite mort 2 et ça au passage.
Bah, faudrait déjà que je prenne la petite mort 1, mais je pense que je me ferai le bundle.
Et donc, il a annoncé aussi finalement qu'il y aurait en 3. Parce que comme à la fin du 1, à la fin du 2. Il se passe un truc et on comprend que forcément il y aura un 3.
Spoil.
Ah bah non, pas de spoil. Voilà, mais il a annoncé,
cliffhanger,
je crois que c'est une ou deux semaines après la sortie du 2 qu'il y aurait un 3. Alors que pour le 1, il s'était dit, il savait pas qu'il ferait un 2, mais vu que les ventes ont tellement bien marché, je crois que c'est un mois après, on lui a dit, bon bah faut que tu fasses un 2.
D'accord. Et c'est aussi laisser le truc un peu ouvert, c'est enfin après le 1, c'est-à-dire je peux m'arrêter là, mais je peux toujours faire une suite quoi. C'est
on va dire c'est comme les retours vers le futur.
Fin ouverte.
Il se passe un truc, voilà, tu dis, ça peut s'arrêter là, mais tu sais qu'il peut y avoir autre chose derrière. Voilà.
D'accord.
Ce d'avis.
Eh ben merci beaucoup. En tout cas, moi, le spectacle m'intéresse particulièrement.
Bah, n'hésite pas. En plus, il y a les places qui sont pas trop chères. Si tu les prends, il y a un site où ils font des réductions, ou si tu les prends par deux. Et c'est vraiment très sympa, je te donne.
D'accord.
Ça. On mettra ça dans le billet du.
Ouais,
du
ça truc, m'intéresse. Si
tu veux, de l'épisode.
Avec, avec plaisir. Tout à fait. Tout à fait. Bon, et ben moi, on va terminer avec un petit mot. C'est pas vraiment une chronique, c'est un petit mot sur la soirée à laquelle j'ai participé hier soir.
C'est que ça?
Vous avez eu peur, hein?
Moi j'ai envie de faire du
Toi tu vas avoir du montage à faire avec.
Petit ours continue de faire le xénomorphe, il me prononce mon jingle, c'est fabuleux.
Je te plains, tu vas avoir un montage de taré à faire là.
Non, moi je garde tout.
En fait, je ne jette rien. Un autre personnage qui disait Clarisse.
Alors moi ça ne me parle pas ça.
C'est dans le silence des anneaux.
Elle a fait dire des agneaux, elle s'est repassée juste avant.
Le silence des anneaux. D'accord. Donc en fait voilà, donc j'ai participé à la nuit alien qui est dans le cadre en fait du festival Lumière, qui est un festival de cinéma à Lyon qui a lieu en fait depuis 2009. Et peut-être que vous le savez déjà, mais c'est à Lyon que le cinéma a été inventé.
Oh, comment elle se la pète!
Ouais, je me la pète! Je vends ma ville!
Je crois que Pierre-Antoine va faire une chronique sur cette légende urbaine.
D'accord, mais ta mala est témoin, je l'ai emmené à la Villa Lumière quand même. On a fait un pèlerinage, oui, tout à fait. Et donc, c'était seulement en 2009 qu'il y a un festival de cinéma qui a été mis en place à Lyon. Il n'y en avait jamais eu jusque-là. Alors qu'il y en a dans des, il y en a dans les Vosges, quoi, à Gérardmer, à Gérardmer. Je sais pas comment on dit, Gérardmer ou Gérardmer, le festival du cinéma Gérardmer.
Oui. Ouais, c'est ça. Dit
d'accord. Ouais, voilà. Bref. Et donc, en fait, c'est un festival qui n'est pas une compétition. Il n'y a pas, de film qui gagne à la fin. C'est juste une personnalité du cinéma qui est mise à l'honneur. Et puis, il y a des rétrospectives, ils font des ressorties de vieux films, il y a des cycles thématiques autour du cinéma. Max. Voilà, il y a des masterclass et puis pas mal de séances qui sont autour du patrimoine du cinéma mondial. Hein. Il n'y a pas de préférence française. Et donc, les invités d'honneur, à chaque fois, c'est une personnalité différente. Il y a eu Clint Eastwood, Milos Forman, Depardieu, Ken Loach. L'année dernière, c'était Tarantino. C'était assez fou, d'ailleurs. Et ouais. Cette année, c'était Almodovar. Et du coup, y a aussi plein de gens qui viennent présenter les séances, qui viennent parler de cinéma. Là, par exemple, l'année dernière, donc, j'avais fait La Nuit Monty Python, qui avait été présentée par Alexandre Astier. C'était assez énorme. Ouais. Et donc, cette année, j'ai fait La Nuit Alien. Et La Nuit Alien, alors, ils nous avaient teasé au moment de l'annonce du programme en nous disant que ce serait peut-être Sigourney Weaver qui viendrait. Et puis elle a décliné, parce que je crois qu'elle ne veut plus tellement entendre parler d'Alien, ou peut-être qu'elle avait des obligations, je ne sais pas. Et c'est Jean-Pierre Jeunet qui est venu 5 minutes sur scène pour nous dire tout le bien qu'il pensait de la franchise Alien.
Forcément.
Alors que, forcément. Et alors que.
Alors que c'est pas le meilleur, moi,
c'est loin d'être le meilleur. Donc en fait, on a vu les 4 dans l'ordre.
Ah oui, il y avait les 4, carrément.
Donc il y avait les 4. Il y avait les 4, ça commençait à 21h, ça se terminait bien après 6h du matin. Alors moi, je ne suis pas restée pour le dernier, donc de Jean-Pierre Jeunet, c'est Alien Resurrection de 1997. Donc il y avait le Ridley Scott, Alien le 8e passager de 79, le James Cameron, Aliens de 86, le David Fincher, Alien 3, qui date de 92, et Jean-Pierre Jeunet à la fin. Il y avait une petite entracte entre chaque film.
Attends,
avec,
il n'y avait pas Prometheus?
Et non, ils n'ont pas mis Prometheus.
Ils
ne veulent
pas que ça soit associé à la trilogie, enfin à la quadrilogie Alien Prometheus.
À la quadrilogie.
Je sais que pour la Neomax, ils voulaient le faire. Et pour une nuit comme ça, ils ont dit on ne veut absolument pas qu'Alien soit relié à Prometheus.
Ok.
D'accord. C'est quoi? C'est une question de dénigrement?
Je ne sais pas exactement, mais ils ne voulaient pas que les deux films soient associés. Ils ont dit, si ah ouais, vous faites un truc Prometheus et autre chose, soit vous faites Alien, mais vous ne faites pas les deux en même temps.
D'accord. Donc en tout cas, pour les 3 premiers, c'est assez intéressant de les voir, les uns à la suite des autres, parce que on a vraiment, c'est vraiment on voit vraiment comment dire, la patte, la signature de 3 réalisateurs différents sur un même thème, comment ils voient le personnage principal d'Hélène Ripley. Et puis il y a vraiment cette signature visuelle et narrative qui appartient à ces réalisateurs.
Alors, clair,
Ah non, c'est pas des touristes. Cela dit, pour David Fincher, apparemment c'était son premier film. Peut-être que je dis une bêtise, mais il semble que c'était son premier film.
Attention, on se lance sur
Wikipédia. Comment ouais, jusque-là, il faisait des clips, c'était un clipper, David Fincher. D'accord. Donc chez Ridley Scott, on a un film qui prend son temps. Il y a un rythme, on est dans de l'épouvante, hein, mais c'est pas, on n'a pas de jumpscare, il y a vraiment un aspect, on voit vraiment le personnage de Ripley contre la créature, cette espèce de lutte avec un personnage féminin très fort. Chez Cameron, on est dans du gros film d'action.
Du Cameron.
Avec tous les attributs du film d'action, avec le commando de Marines, mais c'est bien fait. C'est très très bien fait. Vraiment, moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié le Cameron. J'étais surprise de l'apprécier autant, je l'avais vu il y a très très longtemps. Et le David Fincher, je l'ai vu pour la première fois, en fait. Je l'avais jamais vu avant.
Le premier, alors... tu l'avais jamais vu ?
Non, si, le premier, je l'avais vu plusieurs fois. C'est le deuxième que j'avais vu voir qu'une seule fois. Et le David Fincher que je n'avais jamais vu.
Le Fincher, c'était bien son premier long métrage. Le troisième.
C'était bien son premier long métrage. Alors, le Fincher était... il est intéressant. Il est intéressant parce qu'on retrouve quand même son esthétique. Le scénario est assez intéressant aussi. Il y a des trucs dans le scénario qui sont bien, mais moi je trouve que c'est au niveau... il y a des côtés où je trouve qu'il a un peu mal vieilli, bizarrement, pourtant c'est pas si vieux que ça. Ça fait à peine 20 ans, enfin si, ça fait 22 ans maintenant, la vache. C'est un film qui a 22 ans. Hein. Mais je trouve qu'au niveau de la mise en scène, il y a des choses qui fonctionnent pas très bien et qui rendent le film pas tellement lisible. Il a essayé, je pense, à plusieurs reprises, dans des moments de course-poursuite, à donner le point de vue subjectif de la créature, de l'alien. Et ça se mélange avec le point de vue des autres protagonistes. Et je trouve que ça rend... Notamment, il y a toute une scène dont je ne vais pas développer, un peu de course-poursuite, où je trouve que ça rend compliqué de comprendre ce qui se passerait dans le film. Voilà. Ça se termine d'une façon où tu te dis qu'il ne peut pas y avoir de suite, mais en fait, il y en a eu une, donc, sur le Alien 4. Et alors, donc, qui a été repris, c'était aussi un film de commande hein, pour Jeunet, qui sortait de La Cité des Enfants Perdus et de Délicatessen à l'époque. Et alors, j'ai appris hier soir, en fait, je ne savais pas du tout, j'ai appris hier soir que le scénario, c'était Joss Whedon.
Oh bah dis donc.
Et écrit, oui, le scénario de Alien Resurrection. Le papa de Buffy, le papa de Firefly. Peu, oui. Voilà, et d'ailleurs, à ce sujet, on retrouve dans le Alien Resurrection une équipe de contrebandiers de l'espace, un peu trash, un peu sale, qui ressemble curieusement à l'équipage... Du Firefly. C'est Serenity ou Firefly ?
Serenity, oui, excuse-moi.
Du Serenity, voilà, c'est ça, okay. Il me semble.
Oui, oui, c'est bon,
si
c'est bien
ça. Des bêtises. Oui, c'est ça, hein, c'est oui, Serenity, leur vaisseau. Voilà, donc j'ai vu que la première demi-heure du Alien Resurrection, j'avais vu au cinéma quand il était sorti, donc je ne vais pas trop vous en parler, je pense qu'au niveau scénario, c'est un petit peu bancal.
J'avais trouvé ça limite indigent, moi.
Ouais, c'est dommage parce que l'esthétique de Jeunet est chouette. Moi, j'aime assez bien. Et bizarrement, alors au départ, il y a Randall Flagg qui nous dit « C'est un vaisseau de classe Firefly nommé Serenity. » Voilà.
Merci, Randall.
Nous avons donc la réponse. Merci, Randall Flagg.
Et en tant que grand fan de la série.
Et voilà. Il est là discrètement. Et bah, tu devrais, parce que c'est vraiment une très très bonne série.
C'est une très bonne série. Premier degré ou un petit peu second degré
hein. Ah, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a quand même.
C'est du premier degré, mais avec de l'humour.
D'accord.
Voilà.
Non, parce que enfin, ça me faisait penser, comme on parlait de Jean-Pierre Jeunet, j'avais vu quelques épisodes de Métal Hurlant, la série.
Non, ouais. Non, c'est quand même beaucoup mieux.
Je trouvais ça pas mal, Métal Hurlant, ça me faisait bien rire.
Ouais, mais c'était plus proche du nanar, là. C'était un peu n'importe quoi, Firefly, c'est quand même beaucoup plus sympa.
Votre série, alors. Ok.
Ah ouais, puis en plus, t'as qu'une seule saison, parce qu'elle n'avait pas été reconduite.
Et il y a un film pour clôturer.
Voilà, puisqu'ils n'ont pas pu terminer la saison, du coup, ils ont fait un film ensuite. Donc voilà, Alien Resurrection.
On retrouve Ron Perlman.
Et Ron Perlman.
D'Anna ou de films à la con.
Voilà, et puis aussi, comment il s'appelle Dominique Pinon.
Ah oui, bah oui.
Qui est un des acteurs fétiches, qui est une gueule, hein, qui est un des acteurs fétiches de Jeunet.
Et dans Métal Hurlant aussi.
Voilà, ouais. J'avais vu les épisodes qui étaient très très bien faits avec lui.
Donc en tout cas, voir les films dans ces conditions, c'était vraiment très sympa. C'était à la Halle Tony Garnier, qui est une très très grande salle.
Et donc le public, il était au taquet ou il était très calme?
Ah oui, au taquet, on applaudissait tout le temps. C'était vraiment très très sympa comme
vu
ambiance.
J'ai vu un tweet de toi, apparemment, la culotte de Sigourney Weaver.
Ah bah bien sûr, tout le monde a applaudi. On applaudissait. Oui, oui, quand elle est dans le premier, il y a cette fameuse scène très connue. Voilà, elle
me trompe pas.
Ah non, 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 ça c'est dans le... Quand elle joue au basket, c'est dans le Genet.
Mais elle est pas aussi en petite tenue comme ça? Je sais plus.
C'est quand
non, elle,
elle
est en débardeur et pantalon.
Je comprends.
Voilà, non, non, c'est, pas, c'est presque sur la fin du premier, où elle pense que tout va bien, elle est toute seule dans son vaisseau, elle se déshabille pour se mettre un peu à l'aise et rentrer justement en sommeil, sommeil de longue durée dans son espèce de cocon. Et donc là, elle se retrouve en débardeur culotte, et puis c'est la bonne culotte des années 70 qui t'arrive à la moitié des fesses. Voilà. Et donc tout le monde a applaudi cette scène-là, tout le monde a applaudi dans le 2 quand elle est dans son espèce de, d'exosquelette. Ouais, dans le gros méca comme ça, Get away from her, you bitch. Donc là, tout le monde était debout, applaudissait, enfin c'était assez sympa. Voilà. Donc c'est des soirées qui sont vraiment très très bien dans le contexte de ce festival. L'année dernière, c'était les Monty Python, il y avait une nuit de la science-fiction, il y avait une nuit aussi.
Il y avait quoi comme film pour la nuit de la SF?
Alors, pour la nuit de la SF, je vais te dire ça, je regarde en même temps, parce que tu vois, j'ai pas préparé mon... Voilà, j'essaye de coincer la chef, mais il va pas y arriver. C'était... Alors, il y avait du Méliès, il y avait pas mal de films de Méliès. Le voyage dans la lune, il y avait Soleil vert, il y avait District 9, il y avait la machine à explorer le temps de 1960 là, de George Pal,
et il y avait vieux trucs, quoi.
Voilà, et il y avait le 2001 l'Odyssée de l'espace.
Oui, que du gros classique.
Donc voilà. Voilà, et puis c'était entrecoupé de plein de petits films de Méliès et tout ça, et c'était très très sympa, vraiment très sympa.
À passer de la machine à explorer le temps à 2001 l'Odyssée de l'espace, ça doit faire bizarre quand même.
Mais oui, mais en même temps, ça te donne un panel assez large assez large de la science-fiction, ouais, et de ses origines.
Ah, surtout avec Soleil vert à côté. Ceux qui ne voilà connaissent pas. Ah ouais.
Ouais, il m'a envie de manger de la confiture de fraises, ce film.
J'ai un thé de chez Daman qui s'appelle Soleil vert. Ça me fait toujours un drôle d'effet.
Un frisson à
chaque
fois.
J'en ai peut-être d'ailleurs quelque part.
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Je sais pas, je sais pas.
Ça croque sous la dent.
N'en parlons pas trop, je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Soleil vert.
Un musica,
et n'en parlons pas plus. Voilà, donc on va conclure, les enfants.
Déjà?
Eh oui, déjà. Voilà, donc avant de se dire au revoir, on va... vous allez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, hein. Alors, Musica.
Ben, sur Twitter.
Voilà, t'as pas un petit blog
Si, mais vu que j'ai rien écrit dedans, c'est peut-être pas la peine. Enfin, pas, j'ai plus écrit dedans, c'est peut-être pas la peine de vraiment trop. Voilà quoi. Bon,
d'accord. Alors, quand tu auras réécrit dedans, tu nous le diras. Et Tamala75, où est-ce qu'on te retrouve, toi qui es partout?
Bah, sur les internets, à Tamala75. Partout, dans tous les réseaux.
Sur Twitter, sur Instagram.
Sur WordPress, sur Tumblr.
Ah
sur
oui, donc
Pinterest.
Toi, t'as un blog, t'as un blog bien intéressant aussi, ton blog sur WordPress. Hein. Donc, je mettrai les liens de toute façon. Oui, elle est partout.
Merci beaucoup.
Elle est partout.
Elle est même chez moi, elle est partout.
Et est-ce que tu nous donnerais des petites nouvelles de La Voix dans la tête?
Alors, La Voix dans la tête est actuellement en sommeil hyper profond, un peu comme Sigourney Weaver dans sa capsule.
D'accord.
Mais notre vaisseau continue de traverser le système solaire. Et une destination est programmée dans l'ordinateur central, mais je ne peux pas vous en dire plus, puisque bien sûr tout ceci est classé secret défense.
D'accord, nous respectons le secret défense chez les éclaireurs. Évidemment, je ne peux pas résister à vous citer Randall Flagg, qui est silencieux et qui nous dit « Elle est partout, t'as mal à la tête ». Voilà, j'imagine que tu l'as entendu. Non, je répète tout, moi, je faillote.
Voilà.
Et Titours, alors
Sur Twitter, @Titours avec un 0. À la place du haut.
Avec un 0.
Voilà.
Bon, ben voilà. Très bien. Donc, pour avoir des news des éclaireurs, vous nous retrouvez sur le Twitter, @leséclaireurs. Sur Podcloud, hein, pour télécharger les émissions, pour avoir un petit peu les informations, toutes les informations de ce qui aurait été dit aujourd'hui dans le podcast, sur le petit site. C'est Les éclaireurs, en un seul mot, .podcloud.fr. Le WordPress de l'époque où c'était Péremptoire qui présentait l'émission est toujours actif. Je n'ai toujours pas fait migrer les anciens épisodes sur Podcloud, mais ça va venir, donc vous pouvez toujours le consulter. C'est les éclaireurs podcast en un seul mot, .wordpress.com.
Quand t'as mal, tu pourras m'écouter.
Voilà,
dans les épisodes que j'ai fait avant, tu pourras écouter
parler du catch.
Oui, parce qu'il m'a montré ses notes d'une précédente émission qu'il avait préparée.
Et ça durait 3 heures.
Il y avait beaucoup de feuilles. Ouais.
Ah, c'était dense, hein.
Et là, il en manquait encore.
Voilà. Et c'était très intéressant, cela dit.
Merci.
Enfin, sur iTunes, on est sur iTunes, sur Pod Radio et Podcast France, qu'on remercie. Et puis des bisous à Pod Chose qui nous héberge, évidemment. Et moi, vous me retrouvez toujours à Tanacolude sur Twitter. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses à tous. On vous fait des bisous.
Des bisous.
Bisous, Anna, bisous. Et à bientôt à Lyon ou à bisous. Paris avec grand plaisir.
Ah mais j'espère bien très très vite. Mmh. Voilà. Ciao, ciao.
Bonsoir.
Ciao.
Salut. Together, couldn't take the heat, and now I'm making beats with a string, and I'm Miss Dynamite.
Moi j'ai envie de spaghetti bolognaise en fait.